France Info. France Info. Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr et sur les réseaux sociaux avec le hashtag les informés. Alors oui, je sais ce que vous vous dites, ne sont-ils pas fous d'être venus ce soir aux informés de France Info alors qu'il y a le 9e épisode de la saison 5 de Merlin l'Enchanteur, diffusé au même moment sur Gulli. Alors c'est un risque de perdre le meilleur de la production audiovisuelle, mais ils l'assument et bravo à eux. Et ce soir, sans tour de magie ni hypnose, nous faisons sortir du chapeau des informés de France Info Mélissa Bounoua de Slate.fr, bonsoir.
Bonsoir.
Sophie Fay de bonsoir.
Bonsoir.
Othman Nasrou, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes conseiller régional Les Républicains d'Île-de-France et également chef d'entreprise. Et Yannick Halimi du Parisien, bonsoir.
Bonsoir.
Et ce soir, quatre débats que nous coupons en quatre dans l'actu. Notre-Dame-des-Landes, premier sondage sur le référendum, un peu différent de ce que l'on pensait. Sommet franco-britannique, Brexit ou migrants, il faut choisir. François Hollande est socialiste. Oui, il l'a dit, donc c'est vrai. Mais Emmanuel Macron patiente dans l'ombre, il paraît. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Mercredi prochain, étudiants et lycéens auront une nouvelle matière à leur emploi du temps, ça sera manif. Et oui, les organisations étudiantes et lycéennes ont appelé à une journée de mobilisation contre le projet de la loi El Khomri, les jeunes dans la rue, le cauchemar de tout gouvernement, mais également des parents effrayés que leur progéniture puisse faire de mauvaises rencontres, comme leur donner envie de s'engager en politique. Une première, cette mobilisation sous un gouvernement de gauche, pile 10 ans après un précédent mouvement de jeunesse qui avait eu la peau du CPE, défendu à l'époque par le Premier ministre Dominique de Villepin. La peur des débordements est présente dans tous les esprits, même si aujourd'hui on ne lance plus de pavés, non, on télécharge le pavé sur son portable, ensuite on le jette. Une mobilisation pour l'avenir, selon le président du syndicat UNEF, William Martinet.
On nous explique déjà qu'on est précaire pendant le temps de nos études, parce qu'il faut travailler à côté pour pouvoir les financer, parce qu'on a des conditions d'études difficiles. On est précaire dans notre insertion professionnelle, parce qu'on enchaîne les périodes de CDD, les périodes de chômage. Et là, avec cette loi El Khomri, on nous explique finalement qu'on va être précaire toute notre vie. Donc je crois que la préoccupation des jeunes et des étudiants, c'est pas de savoir si ce gouvernement se dit de gauche ou de droite. La préoccupation des jeunes et des étudiants dans ce pays, c'est quel avenir on leur propose.
Voilà, William Martinet, président du syndicat UNEF. Juste avant de parler des mobilisations étudiantes et lycéennes, Sophie Fay, on l'a entendu tout à l'heure, il y avait une intersyndicale aujourd'hui qui s'est réunie. Il va y avoir plusieurs mouvements de grève, c'est un peu confus, entre le 31 mars, le 12 mars, le 9 mars. Mais justement, le fait que les syndicats ne soient pas d'accord entre eux, c'est la meilleure arme du gouvernement.
En tout cas, c'est une très bonne arme, parce qu'on avait vraiment l'impression que le gouvernement avait réussi la pire chose qu'il pouvait faire, c'est-à-dire refaire un front syndical.
Ouais.
On a aujourd'hui une CGT qui est très affaiblie, qui n'est pas très organisée, qui n'a pas une totale confiance dans son leader. Force ouvrière ne signe pas d'accord. Ils sont bon, mais en même temps, ils sont hésitants. Donc là, tout à coup, ils les remettaient d'accord avec la CFDT. Tout le monde était reparti contre le gouvernement. Le fait qu'ils ne soient pas tout à fait d'accord, c'est plutôt une bonne chose. Et ce n'est pas un hasard, parce que c'est révélateur quand même d'une vraie réalité de fond, c'est que dans cette loi, je sais bien que ce n'est pas très à la mode de défendre le gouvernement en ce moment, mais dans cette loi, il y a des bonnes choses, il y a des vraies avancées, y compris pour les jeunes. Quand vous regardez, par exemple, dans le compte personnel d'activité, les jeunes qui sortent du système scolaire sans diplôme ont droit automatiquement à des heures de formation, au temps nécessaire pour se former. Il y a vraiment plusieurs choses qui sont nécessaires, des choses notamment que la CFDT réclamait, donc cette division est peut-être de bonne augure pour le gouvernement.
Voilà, alors Yannick Halimi, on retrouve là justement la différence entre les syndicats. Les réformistes et
on les retrouve et je suis d'accord avec Sophie Fay. Il y a quelques éléments dans la loi, le projet de loi El Khomri, qui pourrait tout à fait expliquer, justifier entre guillemets le ralliement entre guillemets de la CFDT, dont on sait qu'elle est très ouverte et qu'elle a été depuis le début et depuis très longtemps même un partenaire des gouvernements de gauche, en l'occurrence des gouvernements socialistes. Cela dit, même si c'est plutôt de bon augure, le fait que la CFDT puisse, enfin en tout cas se dissocie. Elle manifeste pas, mais elle va se manifester tout de même,
le
jour que vous aviez indiqué. Ça n'enlèvera pas, quand même, le ratage et le couac dans la méthode utilisée par le gouvernement, parce qu'on aurait pu penser quand même que la concertation, notamment avec la CFDT, en amont, aurait pu être plus serrée et plus riche, pour éviter quand même au moins ce que l'on entend depuis quelques jours. Et tout de même, la vraie épée de Damoclès qui pèse sur la tête du gouvernement, ce sont les jeunes.
Les jeunes, voilà.
Et là, on est dans une phase d'observation. On va voir ce que ça va donner.
Alors justement, le 9 mars, voilà, mercredi voilà. prochain. Mélissa Bounois, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on se dit, alors tout le monde a relevé un mouvement de jeunes sous un gouvernement de gauche, c'est assez unique, et surtout d'un président qui avait placé son quinquennat sous l'égide de la jeunesse.
C'est ça. Moi, je suis très très curieuse en fait de voir s'il va y avoir du monde, enfin des jeunes, beaucoup de jeunes dans la rue, parce que comme vous l'avez noté très justement, en fait, ça s'est beaucoup beaucoup passé sur Internet,
oui.
avec cette pétition.
Exactement.
Qui a recueilli énormément de signatures, et c'est vrai qu'on dit pas mal de la jeunesse actuellement qu'elle est un terme barbare, qu'elle est slacktiviste. Donc slacktiviste, ça vient de slacker, donc quelqu'un qui est un peu qui fait pas vraiment les choses,
ouais.
et de activiste, c'est-à-dire que vous êtes activiste mais sans bouger de votre canapé, donc vous allez signer une pétition, vous allez mettre un like sur un communiqué qui défend des idées, et donc il y a eu beaucoup beaucoup de choses qui ont été dites sur Internet. Je suis assez curieuse de voir si ça va se traduire en fait dans la rue. On a fait tout un papier chez Slate autour de ça, et c'est vrai que comme c'est la première fois que la jeunesse défilerait contre la gauche, je suis vraiment curieuse. Après, il y a une question de calendrier, ça me rappelle un peu juste une scène de Baron Noir, la série de Canal+.
Oui, tout à fait, ça. Exactement.
Où justement,
oui.
ils discutent de ce calendrier, de comment on peut tuer les jeunes en changeant le calendrier. J'ai l'impression que c'est un peu ça qui se trame en ce moment.
Baron Noir ne connaît pas du tout François Hollande,
exactement,
a-t-on appris,
voilà.
On a dévoilé ce matin.
Alors justement, Baron Noir qui s'inspirerait d'un ancien président de l'UNEF, Othman Nasrou, qui est donc Julien Drey. C'est ça qui est étonnant aussi, c'est de voir l'UNEF de William Martinet défiler contre, finalement, le gouvernement socialiste, non?
Oui, en même temps, on sait que voilà, les jeunes se mobilisent beaucoup plus facilement contre. Et d'ailleurs, ce ne sont pas que les jeunes. On parlera peut-être tout à l'heure de Notre-Dame-des-Landes.
Oui, bien sûr,
il y a tout un tas de sujets comme ça qui mobilisent beaucoup contre. Et on a beaucoup de mal en France, il faut le dire, à se mobiliser pour quelque chose. Et c'est un vrai sujet. Mais le drame de ce gouvernement, c'est que en gros, rien n'est jamais clair. Rien n'est clair. Tout ça est fait dans un imbroglio total. Enfin, on comprend plus rien. D'ailleurs, le diagnostic a été fait par le candidat Hollande en 2012 est quand même très très éloigné de ce qu'il propose aujourd'hui. Donc moi, je comprends qu'il n'ait pas de majorité ni dans l'opinion publique, ni dans la population, ni dans sa majorité politique pour porter ce type de réforme. C'est vrai qu'on peut difficilement expliquer quand on a dit que l'ennemi c'était la finance de proposer ensuite une loi comme celle-là.
Ouais.
Voilà. Bon, après, les autres élus, bon, doivent essayer d'amender les choses. La loi n'est pas parfaite. Moi, j'en partage les objectifs. Et donc voilà. J'espère que quand même, on va en voir le bout par le haut, mais c'est vrai que je suis assez sceptique.
Peut-être grâce à la droite.
C'est bien le comble.
Le syndicat étudiant de droite, l'UNI, ne va pas s'y associer.
Voilà, alors c'est ça,
et apparemment, il y a beaucoup de députés, de sénateurs, je ne sais pas, mais de députés de droite qui pourraient et qui ont dit même qu'ils allaient la voter.
Si elle reste en l'état.
Sophie Fay, justement, sur ce, vous pensez que la droite elle-même aujourd'hui, alors même s'il va y avoir des modifications, mais pourrait continuer finalement à soutenir cette loi El Khomri?
En tout cas, c'est un moment, c'est une sorte de moment Schröder, de moment Gérard Schröder pour François Hollande. Il est allé très loin avec le CICE, il est allé très loin avec le pacte avec les entreprises, de responsabilité. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc là, on a l'impression qu'avec Manuel Valls, il joue leur va-tout, qui gagne ou qui perd en 2017. Ils ne veulent pas rester comme Valls ne veut pas rester comme un premier ministre qui n'aura rien fait, qui n'aura rien fait. Ils ne peuvent pas détricoter ce qu'ils ont fait pour donner raison aux fraudeurs. Donc il faut qu'ils jouent le coup d'après. Là, ils ont l'air décidé à le jouer. Bon, maintenant on va voir ce que donne la négociation. Ils vont rentrer vraiment dans une négociation avec la CFDT. Ils l'ont pas faite maintenant un peu grâce à nos ou à cause de nos confrères du Parisien qui ont eu un super scoop quand ils ont sorti le projet. Et donc du coup, il y a eu surprise pour tout le monde, mais la négo, elle va commencer maintenant. Donc, on va voir ce qu'il en reste aussi du texte.
Le problème, c'est qu'on risque, enfin, que le gouvernement François Hollande et Manuel Valls risquent d'être quand même dans une seringue, parce que soit ils restent droit dans leurs bottes pour justement être cohérents avec tout ce qu'ils tentent de faire depuis le pacte de responsabilité, etc., ce que vient de dire Sophie Fay. Et là, ils risquent de se retrouver en porte-à-faux avec une partie de la gauche et maintenant avec des manifestations auxquelles s'adjoignent les jeunes. En revanche, s'ils émasculent un peu trop le projet de loi, peut-être pas, mais s'ils vont un peu trop loin dans l'éradication des aspérités de ce projet de loi, est-ce que Manuel Valls, qui porte quand même ce projet, pourrait rester
à Matignon.
Je ne sais pas. Alors, je trouve qu'il y a beaucoup d'interrogations.
Juste une dernière chose, ministre Abouna, sur le fait, la jeunesse, enfin on dit, voilà, les organisations syndicales ne représentent pas toute la jeunesse, loin de là bien sûr, mais on voit aujourd'hui il y a quand même chez beaucoup de jeunes une désillusion par rapport aux politiques, par rapport aux politiques de l'emploi également, en se disant bon bah, et il y a même une sorte de désespoir. Donc finalement, est-ce que ça peut aussi se raccrocher à ça, ce ras-le-bol des plus jeunes, ce qui peut se passer le 9 mars?
Oui, je pense qu'en plus on est en fin de mandat, donc les gens vont descendre dans la rue. Enfin, ceux qui voudront descendre dans la rue vont le faire pas forcément juste contre la réforme du travail, et que les jeunes ont vraiment ras-le-bol. Moi, je suis toujours interloquée par tous les jeunes que j'ai autour de moi qui me disent mais j'y crois pas, enfin qui vont pas voter en disant je pense pas que ma voix apportera quoi que ce soit. Donc peut-être qu'ils se disent avec un acte vraiment de... Parce que la dernière fois, en fait, que plein de jeunes sont descendus dans la rue, c'était pour le mariage pour tous,
ouais,
qui est un acte très positif. Donc peut-être que là, ils vont se dire, ok, je vais refaire quelque chose d'aussi symbolique qu'à cette époque-là, sauf que cette fois-là, c'est pour dire qu'ils en ont marre.
Allez, 20h15 sur France Info. Les titres, François Lepage.
On l'a appris seulement ce soir, un vol Air France qui reliait Barcelone à Paris a subi un incident sérieux il y a maintenant 2 semaines avec plus d'une centaine de passagers à bord. Un drone est apparu dans le champ de vision du copilote qui effectuait la descente vers la piste. Cela se passait à 1500 mètres d'altitude alors que la législation interdit les vols au-dessus de 150. Le drone est passé environ 5 mètres en dessous de l'aile gauche. La fragile union syndicale s'est fissurée. La mobilisation contre la loi El Khomri se fera en ordre dispersé tout au long du mois. Manifestations et grèves les 9 et 31 mars. Rassemblement le 12 mars. D'un côté, les partisans d'amendements au texte, de l'autre, ceux d'un retrait pur et simple. Le 34e sommet franco-britannique à Amiens, Londres s'engage à augmenter d'une 20aine de millions son aide à la France pour sécuriser surtout la zone d'accès au tunnel et la zone du port de Calais. Un record pour Bercy, la lutte contre la fraude fiscale a porté sur un total d'un peu plus de 21 milliards d'euros l'année dernière. Selon le ministère des Finances, c'est la première fois que le seuil des 20 milliards est dépassé.
20h-21h, France Info, les informés. Jean-Mathieu Pernet.
Les informés de France Info avec ce soir Mélissa Bounoua de Slide.fr, Sophie Fay de l'Obs, Otman Nasrou, donc conseiller régional Les Républicains d'Île-de-France et chef d'entreprise, et Jeannick Halimi du Parisien. Femme, simplement je te dis que je t'aime, t'es comme un soleil qui brille dans mes nuits. Oui, Jean-Luc Lahaye inspire tout un peuple et le premier des citoyens, à savoir François Hollande. Demain, l'hebdomadaire Elle publie un entretien réalisé avec le chef de l'État au lendemain du remaniement ministériel. François Hollande s'y livre plus que d'habitude en racontant quelques anecdotes de sa vie conjugale avec Ségolène Royal. Il se dit féministe et déclare même que Angela Merkel, alors ça c'est étonnant, est plus féministe qu'elle ne doit le penser elle-même. Bon, si elle le dit, il faudra juste la mettre au courant. Hein. Le même jour, une info a fuité sur sa possible déclaration de candidature à la présidentielle au mois de janvier, sauf s'il n'y va pas, ça sera alors au mois d'octobre. Le président de la République tente des coups de com' en s'exprimant dans des médias inattendus pour quel impact. En tout cas, il est en pleine forme et on est content. Hein. D'après la rédactrice en chef de Elle, Katel Pouliguen.
Il nous a paru extrêmement, encore une fois, sérieux, je dirais pas stressé, non, extrêmement à l'aise et assez heureux aussi, je pense, de s'ouvrir sur un versant, encore une fois, plus intime. Et je pense qu'on est assez content de lire ces mots, surtout après la polémique aussi liée à l'accident domestique qu'il a évoqué concernant Myriam El Khomri. C'est vrai que ça fait du bien, finalement. On a l'impression qu'il se justifie un petit peu aussi d'être un féministe, vraiment.
Voilà, Katel Pouliguen, donc rédactrice en chef de Elle sur Europe 1. Juste avant de parler de son côté féministe, Jeannick Halimi, il se dit aussi socialiste. C'était important que...
Non.
Si, je vous assure. Non, c'est important que François Hollande le redise, justement.
Bah, ça. Écoutez,
aujourd'hui, justement, par rapport à ce dont on vient de parler.
En tout cas, c'est symptomatique. Hein. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire socialiste? Est-ce que c'est socialiste à la Cambadélie, c'est-à-dire qu'il veut faire la grande alliance populaire, la synthèse entre la gauche, le centre, la droite, au moins de son parti? Est-ce que c'est socialiste pur sucre, c'est-à-dire très conventionnel, très classique, très traditionnaliste, et il s'arrêterait, on va dire, à la gauche de la ligne Macron-Valls? Comme toujours... qu'est-ce qu'il veut dire par là?
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce qu'il veut dire par là?
Otman Nasrou, pour vous, le fait aujourd'hui, quand on voit ce coup de com', voilà, le président de la République, interviewé par Elle, on voit qu'il multiplie hein, les médias originaux. Président de la République, pour vous, ça peut avoir un impact?
Monsieur Pernin, je ne sais pas comment vous faites pour commenter ça, sans où il faut rire ou s'effondrer, ouais, enfin de larmes, parce que vraiment, enfin, c'est pas du tout ce qu'on attend de lui. Moi, je veux dire, apprendre que François Hollande, ça lui arrive de faire la cuisine et que c'est d'ailleurs à ce titre-là qu'il se dit féministe. Enfin, très franchement, c'est affligeant.
Beaucoup de présidents l'ont fait. François Mitterrand, Nicolas Sarkozy, qui avait passé une tête, se dit, ah, il n'avait pas fait attention.
Vous voyez avec bien l'actualité du jour. Enfin, on est dans une situation où il y a des tas de problèmes. Ouais. Enfin, vraiment, l'opinion publique, je ne sais pas si on peut. Alors, voilà, moi je n'ai pas connu les années Mitterrand, en tout cas j'étais trop jeune, mais vraiment il y a une déconnexion qui est terrible entre cette opération de communication et la réalité qu'on vit, toute l'angoisse par rapport à tous les enjeux dont on parle, et vraiment ce qu'on attend de lui c'est quand même peut-être autre chose. Et vraiment là, c'est pas du tout pour être partisan, mais
non,
franchement, c'est pas intéressant, mais du tout, je vous dis comme je le pense, d'ailleurs je ne l'achèterai pas, elle, spécialement là-dessus.
Mais ça vous nous a justement, on l'a vu dans un sondage, François Hollande, justement pour essayer de revenir là-dessus, a atteint 15% d'opinion favorable. Aujourd'hui, justement, de multiplier ce genre d'initiatives, est-ce que ça peut faire quelque chose véritablement ?
Non. En plus, là, l'interview, il y a tout dedans. Il y a à la fois Angela Merkel qui est féministe, alors qu'en fait, sur Cologne, elle est hyper embêtée. Il y a évidemment quelques confidences sur sa vie privée. Et puis, il y a une question sur Julie Gayet qui botte en touche.
Oui.
Enfin, l'interview elle-même, pour moi, me semble problématique parce que ça mélange un peu. C'est un peu dire, oui, les femmes, donc c'est la cuisine et la vie privée, c'est pas la politique. Donc tout m'embête dans ça et donc je vois pas comment une interview pareille peut servir notre président aujourd'hui.
Ouais, j'avais Camille, vous vouliez juste préciser. Oui, je vous en prie, allez-y.
Non, mais effectivement, on peut se poser la question. Cela dit, quand on est dans la tête et dans la démarche, je dis bien dans la tête,
hein, oui.
Et dans la démarche de François Hollande, on voit qu'il est reparti en campagne pour 2017, une primaire ou pas, on n'en sait rien. C'est pas totalement idiot et illogique de sa part de s'adresser aux femmes. Hein. Pourquoi
57% des électeurs de François Hollande en 2012 étaient des femmes.
Voilà, exactement. Moi, j'ai 52, mais 52, peu importe. On connaît toutes les péripéties sur la misogynie, entre guillemets, de François Hollande, enfin, tous les propos qu'avait tenus Ségolène Royal à son encontre, les propos dont on se souvient tous, c'est le bouquin de Trier-Veller, oui. Où elle décrivait le comportement extrêmement brutal, voire
froid,
méprisant, de Hollande vis-à-vis d'elle-même et donc peut-être des femmes en général. Depuis 2012, je crois que l'électorat féminin dans le vote ou dans les opinions favorables à François Hollande a dégringolé de 18%. Peut-être pas seulement pour ses propos ou les découvertes qu'on a faites de ce qu'il peut penser à l'égard des femmes. Il y a peut-être aussi...
Il n'y a pas que
ces démarches-là dans le vote féminin, on est d'accord.
Bien sûr.
Mais donc, si on se replace là dans cette logique, si on se place dans cette logique-là, effectivement extrêmement électoraliste, ce n'est pas totalement idiot.
On le voit justement, je parlais de médias originaux, parce que c'est vrai qu'on parlait de Gulli, la chaîne pour enfants, justement, chasseur français. Là, on parle, le Canard Enchaîné hier parlait peut-être aller chez Laurent Ruquier dont on n'est pas couché. Pour vous, justement, Sophie Fay, est-ce que ça peut fragmenter comme ça, chercher
Canal
l'électorat
Plus aussi, vous avez oublié Canal+.
Canal+, Plus, exactement, le supplément. Ouais. Est-ce que ça peut servir?
Écoutez, la seule chose qui sert, c'est quand on a quelque chose à dire. Le drame de cette interview dans Elle, c'est qu'il n'a rien à dire, il ne dit rien. Donc, qu'il s'adresse aux femmes s'il veut, mais qu'il leur dise quelque chose. Là, c'est vraiment une déception.
Oui, c'est parce que justement, on avait beaucoup parlé de ce ministère des femmes qui avait été très polémique au moment du remaniement ministériel. C'est aussi une opération, finalement, de rattrapage.
Oui, et puis même qui justifie sa loi. Il peut revenir sur la loi El Khomri. Au fond, le gros problème pour les femmes de la situation aujourd'hui, c'est que quand vous enchaînez les stages, les contrats précaires et tout ça, à quel âge vous avez un enfant?
Oui.
À quel âge vous pouvez construire une famille? À quel âge vous pouvez... C'est un vrai problème. Donc, qui parle de choses sérieuses s'il veut parler s'il veut parler aux femmes qui ne parlent pas de... je ne sais pas, de son costume, de sa cravate de travers, de ses recettes de cuisine.
C'est intéressant. Voilà. On sait en tout cas. Voilà. On va parler de choses sérieuses. Ne vous inquiétez pas, Sophie Fay, on revient dans un instant.
100%. C'est le temps que j'investis dans ma boîte. J'ai misé 100% de mes économies pour la fonder. Elle représente 100% de mes espoirs. Et aussi beaucoup pour mes salariés. Alors quand j'entends que cette année, jusqu'à 100% des cotisations patronales sont remboursées pendant 2 ans, pour des embauches allant jusqu'à 1 900 € brut mensuels, eh bien je pense au CV de Sarah que j'ai reçu hier soir. Et je me dis qu'en la recrutant, on va être performant à 200%.
Embaucher, c'est gagné. Pour bénéficier de la prime, connectez-vous dès maintenant sur embauchepme.gouv.fr.
France Info. 20h23 sur France Info. Les titres, François Lepage.
L'union syndicale s'est fissurée. La mobilisation contre la loi El Khomri se fera en ordre dispersé tout au long du mois. Manifestation et grève les 9 et 31 mars. Rassemblement le 12 mars. D'un côté, les partisans d'amendements au texte. De l'autre, ceux d'un retrait pur et simple. Un record pour Bercy. La lutte contre la fraude fiscale a porté sur un total d'un peu plus de 21 milliards d'euros l'année dernière, selon le ministère des Finances. C'est la première fois que le seuil des 20 milliards est dépassé. Elle avait succédé à François Hollande en mai 2012. La députée PS de Corrèze, Sophie Dessus, est morte d'une hémorragie cérébrale à l'âge de 60.
60 ans. Au CHU de Limoges, elle souffrait d'un cancer et était hospitalisée depuis maintenant une quinzaine de jours. L'US Granville se verrait bien écrire une page d'histoire ce soir. Jamais un pensionnaire de CFA 2, soit la 5e division, ne s'est qualifié pour une demi-finale de Coupe de France. Le petit poussé de cette coupe affronte Marseille au stade Michel Dandano à Caen en quart de finale. Coup d'envoi 21h.
20h-21h, France Info, les informés. Jean-Mathieu Pernet.
Les informés de France Info, on parle donc de François Hollande qui dans le magazine Elle se dit socialiste. Et alors il y en a un qui ne se dit pas socialiste mais qui a des meilleurs sondages. Et ça Sophie Fay, vous en parlez très bien cette semaine dans l'Obs, que c'est Emmanuel Macron. Hein, c'est même la une de l'Obs cette semaine où vous dites carrément qu'il est parti pour 2017.
Ouais, alors en tout cas, il n'est pas complètement parti, oui, mais on dit qu'il a mis en place une fusée à plusieurs étages et que, en fonction de ce qui va se passer maintenant, il se déclenchera par étapes. Non, ce qu'il y a, c'est qu'autour de lui, on réfléchit beaucoup à ce qui peut se passer. Il dit, alors c'est pas lui qui le dit en fait, c'est une enquête de Julien Martin qui a un peu même forcé la main à son entourage pour récupérer des confidences, puisque lui ne veut pas du tout sortir du bois maintenant, puisque le timing de la manière dont il veut mettre les pieds dans le plat n'est pas encore totalement arrêté. En tout cas, il prépare deux livres
ça.
Un gros, un petit, enfin voilà,
et tout simplement,
et surtout une association, hein, une sorte de petit parti politique, et il est en train de réfléchir, de mettre au clair ses idées pour peser sur la campagne de 2017, mais en tant que quoi, ça on ne sait pas encore, ça dépendra des étages de la fusée.
Othmane Nasrou, justement, est-ce que ce genre de personnalité, Emmanuel Macron, qui alors dépasse un petit peu même le cadre des partis, hein, puisqu'il n'est pas à OPS, mais on sait qu'il plaît à droite aussi, puisque certains ont regretté de ne pas avoir voté. Vous pensez qu'il peut avoir un avenir national, un homme comme Emmanuel Macron?
Ce qui est certain, c'est qu'il est intéressant. C'est un produit politique un petit peu nouveau. Voilà, il y a une démarche intéressante. Moi, je suis curieux à son sujet. Mmh. Voilà, en même temps, c'est un petit peu facile comme position, parce que qu'est-ce que le macronisme? Qu'est-ce qui va en rester en définitive? On voit que la loi Macron, qui a fait beaucoup de bruit, il a fallu quand même avoir recours au 49-3 pour la faire passer.
Mais vous avez remarqué que maintenant, il paraît presque un frondeur par rapport à Mariam El Khomri. Hein.
Non, mais c'est là où je vous dis que c'est un peu n'importe quoi. Tout ça est kafkaïen. Et la création de son mouvement, moi, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on puisse en dire que ce soit une bonne ou une mauvaise chose. Vraiment, je crois qu'il est un peu tôt et il ne faut pas que non plus, il veuille aller trop vite.
Trop vite, ouais, c'est ça. Oui, Sophie Fay.
Il prend une position très intéressante, en tout cas par le truchement de ses proches. Il dit, dans la tribune de Martine Aubry, j'aurais pu signer sans aucun problème la partie sur la déchéance de nationalité et la partie où elle critique les propos que Manuel Valls a tenus à Munich sur la politique d'Angela Merkel vis-à-vis des réfugiés. Mmh. Et donc, en revanche, sur le reste, il dit on peut discuter, mais sur les valeurs, je ne transige pas. Donc, ce qui est amusant, c'est qu'il pousse Manuel Valls à sa droite et donc on les sent quand même très à la manœuvre.
Mais c'est vrai qu'il y a un an, Emmanuel Macron, c'était sa loi qui était mise en avant. Aujourd'hui, il est un peu plus discret, même. Il commande beaucoup moins, parce qu'en plus, il a même été rétrogradé dans l'ordre du gouvernement. C'est une personnalité, à votre avis, qui peut compter dans l'avenir, finalement, de la politique française?
Je ne sais pas s'il va compter, mais en tout cas, nous, on parlait d'un imaginaire Macron, parce qu'il recueille un peu les fantasmes. C'est l'homme politique qu'on n'avait pas vu venir. Ouais. Il est beaucoup plus jeune que tous les autres qu'on voit actuellement dans le paysage médiatique et qui s'exprime beaucoup. Donc les gens ont l'air de vouloir croire à lui sans savoir encore ce qu'il va dire et ce qu'il pourrait défendre. Et c'est juste un homme politique nouveau. Enfin, on parlait des jeunes qui sont désabusés vis-à-vis de la politique. Ouais. Et lui, on peut pour l'instant tout lui prêter. Après, moi, sur la loi El Khomri, est-ce que c'est pas lui qui aurait dû la porter? Pourquoi c'est elle qui l'a portée? C'est aussi ça qui s'est joué.
C'est un jeu de coulisses.
J'attends de voir. Donc quand j'entends Sophie Fay qui dit que c'est Julien Martin qui a aussi forcé son entourage à dire qu'il avait peut-être l'idée de le faire, c'est aussi quelque chose qui est pensé, mais j'attends vraiment de voir.
Yannick Alimi, on sait, Emmanuel Macron, il est populaire, hein, les Français l'aiment bien, mais est-ce qu'il y a toujours, quand à un moment, il faut se confronter...
Finalement, pas les militants socialistes.
Voilà, alors justement, non, mais quand il faut se confronter finalement à l'Élysée, au scrutin universel, au scrutin présidentiel, pardon, est-ce qu'à un moment, on se dit pas je vais pas faire confiance à quelqu'un qui n'est pas élu? Est-ce que c'est pas son problème aujourd'hui, à Emmanuel Macron?
Écoutez, peut-être, mais d'un autre côté, comme aujourd'hui, contrairement il y a encore quelques années, comme vous le disiez au début, il y a une méfiance généralisée vis-à-vis des appareils et des hommes politiques qui n'ont pas fait leur preuve, donc il peut peut-être bénéficier de cela. Cela dit, je mettrais effectivement quelques bémols. Au-delà de la carrure hein, de Monsieur Macron, qui est effectivement, il est intelligent, il défend petit à petit, comme le disait Sophie, des idées un peu plus claires, en tout cas autres que sur l'économie pure et dure. Alors on est pour, on est contre, peu importe, mais enfin, il commence un peu à dessiner de façon plus épaisse son portrait et son profil. Ce n'est pas les bémols que je voulais mettre. Ce n'est pas la première fois qu'une personnalité de la société civile émerge de cette façon. Il y en a eu à droite, il y en a eu à gauche. On pourrait en faire toute une liste et avec une capacité et une honorabilité, si je puis dire, aussi grande que lui. Je pense qu'il est suffisamment intelligent. Enfin, je lui crédite de cette grande intelligence pour ne pas vouloir se lancer dans la présidentielle dès 2017.
C'est ça. Voilà.
Il n'a pas, comme vous le rappeliez, de carte de parti. Il n'a pas l'assentiment du parti
socialiste. Il n'y a pas d'ancrage local aussi. Voilà,
il n'y a pas effectivement de mandat électif et d'ancrage local.
Juste une dernière chose, Othmane Nasrou, quand Nicolas Sarkozy dit Emmanuel Macron, bienvenue chez les Républicains, il aurait sa place, en fait, plutôt chez les Républicains?
C'est à lui qu'il faut demander, mais je ne suis pas sûr que ce serait sa démarche. Tout comme je ne suis pas sûr qu'il aurait pu signer la tribune avec Martine Aubry dont on parlait tout à l'heure, parce que je pense qu'elle ne lui aurait pas proposé. Donc il est un petit peu comme ça, comme un vrai ovni politique. Et la question, c'est est-ce que c'est superficiel ou est-ce qu'il y a vraiment une profondeur derrière? Et pour l'instant, c'est vrai qu'on ne voit pas encore de quoi est-il le nom.
Allez, 20h30 sur France Info. L'heure de retrouver le journal d'Armand Perrouloga, bonsoir.
Bonsoir, c'est un incident qualifié de grave par le BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse. Un drone a failli percuter un avion Air France qui reliait Barcelone à Paris alors qu'il atterrissait à Roissy. Il est passé à 5 mètres d'un A320, c'était le 19 février dernier. L'incident n'a été révélé que ce soir. Le copilote a dû désactiver le pilotage automatique pour faire une manœuvre d'évitement d'urgence. En cas de contact, le drone aurait pu se coincer dans un réacteur et provoquer une catastrophe aérienne. Pour l'instant, on ne sait pas qui a manœuvré ce drone. L'enquête du BEA ne fait que commencer. 3 manifestations au mois de mars contre la loi El Khomri. Elles auront lieu les 9, 12 et 31 mars. Le 9 mars, c'est à l'appel d'une vingtaine d'organisations de jeunesse, notamment l'UNEF, le premier syndicat étudiant. Le 12 mars, l'appel à manifester est lancé par 5 syndicats réformistes qui demandent, eux, des modifications au projet de loi sur le travail. Et puis le 31 mars, c'est un appel à la grève et aux manifestations lancées par 7 autres syndicats qui rejettent en bloc l'ensemble du texte, parmi eux la CGT, FO, Solidaires et la FSU. La crise des migrants à Calais, au cœur du sommet franco-britannique qui a eu lieu aujourd'hui à Amiens, en présence de François Hollande et David Cameron, le Royaume-Uni va aider financièrement la France à gérer cette crise migratoire. Hervé Toutain.
David Cameron, qui affichait un air déterminé, s'est borné à confirmer le versement à la France de 20 millions d'euros supplémentaires pour accroître la sécurité des sites sensibles et aider à l'accueil des migrants. Sinon, le Premier ministre britannique n'a parlé que de renforcer la frontière côté français, naturellement, se disant pleinement satisfait des décisions prises par Paris. Pas d'ouverture non plus côté britannique sur la question des regroupements familiaux et plus particulièrement le sort des mineurs isolés qui ont de la famille de l'autre côté de la Manche. David Cameron a souhaité un traitement plus efficace et rapide des dossiers sans s'engager plus avant. Face à cette détermination, François Hollande, qui semblait plutôt sur la défensive, n'a pu que mettre en garde, faire passer un message. Venir à Calais, c'est la certitude de ne pas pouvoir traverser, a martelé le chef de l'État. Tout a été fait pour accueillir les demandeurs de droit d'asile, pour faciliter les formalités, a encore conclu le chef de l'État. Pas sûr que François Hollande ait réussi à convaincre la maire de Calais, Natacha Bouchard, ni le président de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Xavier Bertrand. Tous deux étaient au premier rang. Amiens, Hervé Toutain, France Info.
Et la France, elle continue. Le démantèlement de la jungle de Calais, démantèlement sous tension. Un groupe de réfugiés iraniens s'est fait coudre la bouche aujourd'hui pour protester contre cette évacuation du bidonville. Le jackpot pour le fisc français, les redressements fiscaux ont atteint un niveau record en 2015. Plus de 21 milliards d'euros, soit presque 2 milliards de plus qu'en 2014. Plusieurs grandes entreprises se sont notamment fait épingler par Bercy. La disparition de 2 politiques aujourd'hui. Yves Guéna s'est éteint à l'âge de 93 ans. C'était un gaulliste de la première heure, ancien ministre et ex-président du Conseil constitutionnel. Et puis on a appris aussi le décès de la députée socialiste de Corrèze, Sophie Dessus, 60 ans. Elle s'est éteinte aujourd'hui d'une hémorragie cérébrale alors qu'elle souffrait d'un cancer. L'écrivain d'origine russe Andrei Makine, élu à l'Académie française à l'âge de 58 ans, il avait obtenu les prix Goncourt et Médicis en 1995 pour son roman Le Testament français. Le foot, Granville Club de CFA 2 va tenter l'exploit ce soir face à Marseille. C'est le dernier quart de finale de la Coupe de France. Ça se joue à Caen à partir de 21h et le vainqueur affrontera Sochaux en demi-finale.
Merci Armand Perrologa, on va faire un tour à Météo France.
France Info Météo avec CIC Auto, financement, assurance, mais aussi achat de votre voiture. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Élodie Calac.
Ce sera encore agité demain, de la Vendée et des Charentes vers la région parisienne. Champagne-Ardenne, les pluies du matin seront remplacées par des giboulées l'après-midi. Des averses, parfois de l'orage et du grésil. Il y aura un peu de neige vers les Ardennes. Ces giboulées seront présentes dès le matin entre la Bretagne et le Pas-de-Calais. De l'Aquitaine au nord-est, ce sera pluvieux et venté toute la journée. Il neigera en montagne. Ce temps gagnera le sud-est l'après-midi. Il neigera vers 1300 mètres sur les Alpes. On trouvera du soleil quand même sur le Roussillon, la Côte d'Azur et la Corse. Côté thermomètre, quelques gelées dans l'est le matin. Des températures de mars pour l'après-midi. 8 degrés à Lille et à Mulhouse, 9 à Paris, Angers, 11 degrés à Lyon, 15 degrés du côté de Toulouse et de Nice et 17 pour Perpignan.
Le live France Info.
Le réflexe. Écoutez.
Lire.
Regardez.
Le live.
Réactivité.
C'est tout France Info sur un écran.
Des alertes. Partout.
La radio.
Tout le temps.
À écouter et à regarder.
Avec l'application mobile.
Et sur franceinfo.fr. Le live France Info.
Le réflexe info. France Info. 20h-21h, France Info. Les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés. Avec ce soir, Mélissa Bounois de Slate.fr, Sophie Fay de l'Obs, Othman Nasrou, conseiller régional Les Républicains d'Île-de-France et Jeannick Halimi du Parisien. Et si cela était moins compliqué que prévu, en fait, le premier sondage concernant le futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes est paru et il est favorable aux partisans de l'aéroport. Les opposants ont déjà affirmé qu'ils continueraient le combat, même en cas de défaite, donc ça va être assez long. On voit ça à 20h45, car avant, on parle du couple franco-britannique Aboul Lozaï. Voilà ce que François Hollande a dit d'une manière plus policée, j'avoue, à David Cameron. Aujourd'hui, le président de la République et le Premier ministre britannique se sont rencontrés à Amiens, donc pour un sommet entre les deux pays. Un sommet dans une ambiance un brin crispée depuis que le ministre de l'économie, ben oui, encore lui, a déclaré à propos du Brexit, si le Royaume quittait l'Union Européenne, la France ne retiendrait plus les migrants à Calais et inciterait les banquiers à quitter la City pour Paris. Service commandé ou initiative personnelle, le doute plane, mais les migrants étaient au cœur donc des discussions franco-britanniques. Comment résoudre un problème européen avec un pays qui ne souhaite plus l'être? Cameron a lâché 22 millions pour Calais et ça ne plaît pas vraiment au président de la région, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Xavier Bertrand.
C'est que l'argent ne réglera pas tout, et si les Anglais pensent qu'en faisant un chèque, ça va régler le problème, ils savent pertinemment que ça ne réglera rien. Le problème de Calais, il est à la fois chez les Anglais et très loin de l'Europe. D'ailleurs, il va falloir que le sommet européen soit un sommet qui décide, parce que très clairement, je crois que pour l'Europe, c'est une question de vie ou de mort, de savoir si elle veut continuer à protéger des frontières extérieures, ou alors on aura le retour des frontières nationales.
Ouais, Xavier Bertrand, donc président de la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Othman Nasrou, ce chèque donc de 22 millions, c'est pour sécuriser, c'est pas pour construire des abris ou autre chose. Est-ce que c'est une manière pour les Anglais de se débarrasser?
Bah, il faut se mettre aussi à la place des Anglais. Déjà, il faut préciser qu'ils ne donnent pas que 22 millions. Non, ils participent déjà, je crois, à hauteur d'à peu près 60 millions.
Exactement. La 22, c'est pour Calais.
Voilà. C'est plus spécifiquement sur ça. Moi, je peux pas entendre ce que dit, pour le coup, Emmanuel Macron. Alors voilà, heureusement qu'il est pas au Quai d'Orsay. Ouais. Peut-être dans ses ambitions, il faudra pas qu'il passe par cette case-là, parce que faire du chantage pour expliquer où vous restez dans l'Union Européenne, ou alors on ouvre les vannes, enfin, je veux dire. C'est quand même pas très courtois.
Mais on sait aujourd'hui que ce sont les Anglais qui ont la solution. Ils ne veulent rien régler. Donc, il y a un moment, c'est vrai qu'Emmanuel Macron fait de la provocation, mais il dit peut-être ce que pensent beaucoup de gens aussi. Il y a un moment.
J'entends bien, mais là, pour le coup, ce que dit Xavier Bertrand est assez pertinent. Le vrai problème, c'est que ces gens, ils sont sur notre sol. Il y a un problème aux frontières de l'Europe. On a fait l'espace Schengen, mais on n'a pas forcément, maintenant, on renforce les moyens de Frontex. Enfin, avec beaucoup de retard. Vraiment, le drame de l'Europe, c'est qu'on réagit toujours un temps en retard, et donc une fois que le problème devient incontrôlable. Et donc vraiment, Calais, c'est aussi ça. Aujourd'hui, on parle du démantèlement, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là aussi? Et je pense que les Anglais, ils ont bien sûr leur part de responsabilité et surtout de solution dans ce problème-là. Ouais. Maintenant, je trouve que c'est un peu facile de dire c'est leur problème, c'est à eux de gérer, sinon on s'en occupe plus.
Alors,
c'est pas très courtois.
En même temps, Sophie Fay, en cas de Brexit, c'est vrai que là, va se poser quand même un problème.
Oui, mais moi j'ai trouvé que j'interprète pas du tout comme vous la déclaration d'Emmanuel Macron, parce que je trouve qu'il donne un très bon coup de main à David Cameron, qui a pris la tête de la campagne pour que les Britanniques votent pour rester dans l'Union européenne, et en disant clairement que voilà, que on garderait peut-être plus la frontière, se déplacerait de l'autre côté. Bah, c'est une manière de dire de montrer aux Britanniques tous les enjeux et l'intérêt qu'il y a à rester dans l'Union. Et ils ont aussi une inquiétude sur la place financière qui se passera peut-être pas. Ouais, et là aussi, il peut y avoir une tentation. Jusqu'à maintenant, en fait, ils se disent de toute façon, les banquiers partiront pas. Regardez comment les Français les ont traités. Mais tout à coup, si les Français les traitaient différemment, est-ce qu'il n'y aurait pas plus d'influence? Donc, c'est une manière. Il essaye, il donne plutôt des arguments à David Cameron pour mener sa campagne.
C'est simplement, je pense qu'aucun peuple n'aime qu'on lui force la main. Moi, j'ai peur que ça produise plutôt l'effet inverse. Enfin, vous voyez, surtout dans des référendums comme ça, quand vous avez quelqu'un d'un pays étranger qui commence à vous dire si jamais vous dites, vous sortez, voilà ce qui va se passer, on va vous sanctionner, je pense vraiment que ça ne marche jamais. Voilà, on l'a vu avec la Grèce.
Mais Issa, vous pensez, voilà, est-ce que les Anglais aujourd'hui ont pris conscience, enfin les Britanniques plutôt, ont pris conscience aujourd'hui du problème de Calais, véritablement, ou alors c'est juste en signant des chèques, ils se disent comme ça, on met ça de côté et on laisse les Français se débrouiller?
Bah, je pense qu'ils ont très peur que ça arrive chez eux, mais oui, ils les voient arriver. Enfin, on a tous entendu ici les comptes rendus assez malheureux de gens qui essayent de passer tous les jours, qui reviennent, qui retentent de repasser. Donc ils savent très bien ce qui se passe de l'autre côté de la Manche. Après, la menace de Emmanuel Macron, je ne sais pas si c'est vraiment ça qui va se passer.
C'est ça, Jeannick Halimi.
Écoute, je ne suis pas sûre que... Alors évidemment, on a Calais, hein, a cet abcès, c'est terrible. Je ne suis pas sûre que la France, qui n'en a accueilli qu'environ 30 000 par rapport, je le répète, à l'Allemagne, qui en a accueilli un million, voire plus, puisse donner véritablement des leçons d'accueil, de bienveillance à l'Angleterre ou enfin à David Cameron. Moi, je pense qu'il faut tout faire pour... il faut se mettre à la place de David Cameron, qui a un parti d'extrême droite, en tout cas extrêmement populiste, qui est au-delà de la volonté de sortir de l'Europe, a aussi des discours extrêmement xénophobes, racistes. Il a les problèmes que nous, toutes choses égales par ailleurs, nous pouvons avoir aussi avec nos propres partis d'extrême droite, partis populistes. Donc, se mettre un peu dans la tête de David Cameron pour éviter que sa population la plus extrémiste et la plus qui a le plus peur de la venue de ces flux, parce qu'il y en aurait beaucoup qui iraient en Angleterre.
Toute
une partie des gens qui viennent de Syrie traversent l'Europe par tous les chemins que l'on connaît, en grande partie pour rejoindre l'Allemagne, la Suède et la Grande-Bretagne, qui est, un, très accueillante, deux, qui a une activité économique et une croissance beaucoup plus forte que la nôtre, et qui a un habeas corpus qui fait qu'ils peuvent circuler comme ils veulent l'île atteinte. Donc après, je pense qu'il faut aussi, je termine là, se mettre au clair, nous les Français et les Européens en général, sur est-ce qu'on veut véritablement garder la Grande-Bretagne au sein de l'Union Européenne, oui ou non. Tout le monde n'est pas d'accord. Certains disent, écoutez, on ne peut pas tout lâcher. Si la Grande-Bretagne veut sortir, elle sortira. Je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur des paris des coups de poker à jouer.
Othmane Assou, c'est vrai, c'est aussi ses opinions publiques. On l'a vu, même Manuel Valls, ça lui a été même reproché dans cette tribune de Martine Aubry. La manière, même si François Hollande aime beaucoup Angela Merkel maintenant dans ses interviews de elle, mais a été très critique. Notamment, même en Allemagne, il a critiqué Angela Merkel sur l'accueil des réfugiés. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les gouvernements sont otages finalement de leur opinion publique? Ils se disent, ça ne va pas être apprécié d'accueillir des migrants, donc on n'en accueille pas?
Je pense que c'est pas illégitime non plus d'entendre l'opinion publique, l'opinion populaire, c'est pas illégitime. Et puis il faut comprendre aussi l'angoisse des gens. Moi, je suis plutôt d'accord avec Manuel Valls. Je pense que l'Allemagne a commis une erreur, parce qu'accueillir autant de migrants en aussi peu de temps, je suis désolé de dire que ça peut difficilement bien se passer. C'est ma conviction profonde. Oui. Et malheureusement, l'actualité, voilà, je crois qu'il y en a 130 000 où l'Allemagne ne sait plus où ils sont, parce que c'est le chiffre du gouvernement allemand. C'est pas normal. Il faut prendre le temps de bien organiser les choses. Et vraiment, vous savez ce qu'on dit, le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc moi, je veux bien qu'on prenne notre part là-dessus, mais il y a le cas... En plus, on mélange tout. Il y a les réfugiés, il y a le migrant économique. Calais, c'est encore autre chose. Ça n'a rien à voir avec la Syrie. Donc on est sur des choses extrêmement différentes. Et on amalgame un peu tout derrière des bons sentiments. Donc vraiment, il faut qu'on ait une gestion plus...
Ce qui n'est pas normal, le chemin de l'enfer est aussi semé de mauvaises
intentions. Ah bah ça, on est bien d'accord.
Sophie Fay.
Ce qui n'est pas normal, c'est les photos qu'on voit à Lesbos, c'est les images qu'on a vues encore hier en Macédoine. Enfin, c'est on ne peut pas. Elle a sauvé le nord de l'Europe, Angela Merkel.
Oui, mais Calais, c'est un sujet qui est complètement à part.
Mais Calais, il se passe des choses à Calais en ce moment. moment, il y a un certain nombre de, on propose l'asile à un certain nombre de réfugiés. On est en train d'essayer d'organiser, de réduire cette jungle. On n'est pas non plus complètement inactif. Et puis encore une fois, je ne crois pas du tout qu'Emmanuel Macron ait voulu dire aux Britanniques sortez, prenez l'option sortez. Pas du tout, parce que c'est un argument qu'ils utilisent sans cesse, de dire que s'ils restent dans l'Europe, à un moment donné, ils vont être coincés dans Schengen et ils vont avoir tous les réfugiés chez eux. Mmh. Donc, au contraire, c'était un argument vraiment, à mon avis, pro-rester dans l'Europe.
Il y a d'autres hommes politiques aussi européens que Daniel Cohn-Bendit, par exemple, qui dit « Messieurs les Anglais, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez sortir ». Je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur des discours à tenir. Je ne sais pas.
Mais on voit en ce moment une partie de la jungle de Calais qui est en train d'être détruite. On se souvient, sous le quinquennat... Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, on se souvient de Sangatte, etc. Et on se rend compte que ce sont des solutions très, très éphémères, de quelques jours presque. Donc finalement, pourquoi faire ça, pour satisfaire aussi l'opinion publique ?
Parce qu'il fallait faire quelque chose. Ouais. On pouvait pas. Enfin, ça fait des mois que les gens entendent parler de cette jungle, avec ce mot qui revient, qu'on entend tous les jours. Et donc, il y avait nécessité de dire, on va les emmener vers des foyers, on va trouver une solution, on va dire qu'il y a une solution. Et voilà, les choses bougent. Les gens vont être placés dans des, pas dans cette jungle, pas dans cet endroit où tous ces gens sont sous des tentes.
Justement, à propos de ça, il y a une statistique terrible. Enfin, c'est pas une statistique, c'est une enquête. C'est sur 102 centres ouverts, vous savez, pour accueillir les migrants. On sait qu'il y a 26% des migrants hébergés qui sont repartis sans laisser d'adresse. Donc aujourd'hui, finalement, on voit très bien que c'est toujours pour rejoindre cette fameuse Grande-Bretagne. Donc ça peut se reproduire encore de nouveau, un nouveau camp façon jungle. Donc en tout cas,
il y en a déjà en Belgique
et il y en a même à côté de Calais. Donc malheureusement, c'est un sujet, j'imagine, sur lequel nous reviendrons encore et encore, puisqu'il le faut, et il est 20h45 sur France Info. Les titres à Mampirologa.
Une catastrophe aérienne évitée de peu le 19 février dernier près de l'aéroport de Roissy. Un drone est passé à quelques mètres d'un A320 qui allait atterrir. Le copilote a dû effectuer une manœuvre d'urgence. C'est le BEA qui révèle l'information ce soir. Les syndicats appellent à des grèves et manifestations contre la loi El Khomri, mais pas tous le même jour. Le 12 mars pour 5 syndicats réformistes et le 31 mars pour 7 syndicats qui rejettent en bloc cette réforme du Code du travail. Une première journée d'action nationale est prévue déjà mercredi prochain, à l'appel cette fois d'une vingtaine d'organisations de jeunes, dont l'UNEF. 22 millions d'euros supplémentaires pour aider la France à gérer les migrants à Calais. Principale annonce de David Cameron au sommet franco-britannique d'Amiens. La France, elle, menace de ne plus retenir les migrants à Calais si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. La lutte contre la fraude fiscale atteint des records. 21 milliards d'euros l'an dernier. Les redressements fiscaux ont été moins nombreux en 2015, mais l'État repère mieux les contribuables et les entreprises en faute. Et puis le foot, Granville contre Marseille, ce soir à 21h, dernier quart de finale de la Coupe de France. Les amateurs normands vont tenter l'exploit.
20h-21h, France Info, les informés. Jean-Mathieu Pernet.
Les informés de France Info avec ce soir Mélissa Bounois de Slate.fr, Sophie Fay de l'Obs, Othmane Nasrou, donc conseiller régional et républicain d'Île-de-France toujours, et chef d'entreprise, et Jeannick Halimi du Parisien. Notre-Dame-des-Landes, c'est une sympathique commune en fait, comme beaucoup d'autres qui n'avaient pas grand-chose pour rentrer dans l'histoire, si ce n'est ses promenades, ses magnifiques automnes, sa visite chez Unique Médecin, et bientôt peut-être sa fameuse zone duty-free avec vue sur les bois de Roanne. Aujourd'hui est sorti le premier sondage après la proposition de François Hollande de régler cette affaire d'aéroport par référendum, et 51% des personnes interrogées en Loire-Atlantique se disent favorables au projet contre 39% qui s'y opposent. Le problème maintenant est de savoir quel sera le périmètre du référendum, le localiser à la Loire-Atlantique ou au département autour, en sachant que tous profiteront de l'aéroport ou non d'ailleurs. Seront-ils sur la même ligne que le gouvernement qui souhaite lui la construction de l'aéroport ? Enfin, le gouvernement une partie, puisqu'en visite à Rennes aujourd'hui, la ministre du Logement Emmanuelle Cosse a précisé qu'elle était toujours contre l'aéroport, et certains, comme Françoise Verchère, elle, c'est une élue locale opposée à l'aéroport, souhaiteraient étendre la consultation au niveau national.
Tous les contribuables nationaux vont être mis à contribution, puisque l'État assume une partie du transfert en payant la tour de contrôle et la voie. Donc il ne me paraît pas normal qu'on limite la consultation simplement à la Loire-Atlantique. Je pense que tout contribuable devrait pouvoir s'exprimer, d'autant que beaucoup ne savent pas que leurs impôts vont servir à prêter de l'argent au groupe Vinci.
Voilà, donc Françoise Verchère, donc élue locale opposée à l'aéroport. Sophie Fay, est-ce qu'en souhaitant ce référendum, François Hollande finalement a compliqué les choses ou pas ? encore plus sur le Notre-Dame-des-Landes.
Écoutez, c'était déjà vraiment très compliqué. Oui. D'ailleurs, ça ne doit pas être simple. Je vais vous faire un aveu. Je demande à toutes les personnes qui sont concernées et qui sont proches quel est leur avis. Bon, en général, il y en a un qui est pour, l'autre qui est contre. J'ai essayé de lire beaucoup de choses. Je suis absolument incapable de me faire un avis sur le sujet. Et donc, le référendum, au moins, ça donnera une indication. Non, je ne pense pas que ça puisse compliquer.
Oui, vous pensez pas.
Mais quel référendum et dans quel contour, c'est tout le problème. Mais je ne sais pas s'il a compliqué.
Je vous en prie, allez-y.
Il n'a pas rendu plus lisible la ligne politique du gouvernement. Lui, il demande un référendum. Jean-Marc Ayrault, qui était l'ancien maire de Nantes, comme on s'en souvient, qui est allé au Quai d'Orsay, qui demandait à ce que les travaux, au contraire, reprennent aussi vite que possible. Et puis Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, qui demandait des expertises supplémentaires avant de décider. Donc, une fois de plus, il ne tranche pas, quoi.
Et carrément, donc, même des opposants directs, Emmanuel Cosse.
Emmanuel Cosse, qui elle n'en veut pas du tout.
En sachant que Manuel Valls est pour Mélissa Bounois, c'est vrai que c'est assez compliqué. On se demande même au sein du gouvernement, finalement, comment tout ça peut se régler. Parce que d'avoir nommé des opposants et des pros à un projet qui date, faut le rappeler, des années 60, hein, quand même. Voilà, ça a commencé les premières études. Ça devrait être au mois de juin, d'ailleurs. Ça semble très compliqué, non ?
Ça symbolise un peu tout ce gouvernement, hein, c'est genre comment on va faire pour faire que tous ces gens s'entendent ensemble sur un projet qui est aussi compliqué. Donc si quelqu'un prend une position ouverte, Emmanuel Cosse par exemple, qui est des Verts et donc qui a priori son parti est plutôt contre, et elle est dans un gouvernement où beaucoup de gens sont pour, tout ça ne se résoudra pas. Et en plus, le référendum est souvent une solution très compliquée, sachant que les gens votent souvent, ne répondent pas à la question qu'on leur pose. Donc j'ai un peu peur que ça n'arrange encore pas du tout ce gouvernement.
Les choses, oui. Othman Nasrou aussi.
Sur ce référendum, faut se souvenir d'où il vient, parce qu'en réalité, ça a été l'opportunité, l'habillage pour permettre à Emmanuel Cosse de rentrer au gouvernement. Il fallait lui donner quelque chose, sinon effectivement c'était compliqué de rejoindre un gouvernement après s'être autant opposé à ce projet. Donc encore une fois, ce gouvernement va être pris au piège de ses contradictions. On va faire ce référendum, on ne connaît pas le périmètre. Je crois que le président de la région Pays de la Loire a dit qu'il ne voulait pas y participer ni l'organiser, donc on ne sait même pas qui l'organise. C'est n'importe quoi de bout en bout. Il y a un moment où il va falloir revenir à des choses, sortir des postures et revenir à des choses beaucoup plus pragmatiques.
Sophie fait.
C'est pas n'importe quoi tant que ça, parce que si vous voulez, le problème, c'est ça reflète quand même la situation de la société française. En gros, les gens qui sont pour l'aéroport, ils vous disent ça va créer des emplois, et en ce moment on peut pas refuser l'emploi, et donc au fond c'est un projet, il est peut-être pas indispensable, mais au moins pendant la construction il y aura de l'activité, ils vont embaucher des gens, ça va faire des dépenses pour la région et tout ça. Donc vous avez d'un côté les gens qui sont pour l'emploi, et puis de l'autre ceux qui regardent l'environnement, la nécessité, la rationalité, et qui disent bon, est-ce qu'on a vraiment besoin de cet aéroport,
et ça c'est pas démontré. Mais Sophie Fay, il faut quand même que le gouvernement,
évidemment,
surtout
c'est le cas
un dossier
de tous les
qui
dossiers,
traîne depuis 40 ou 50 ans, puisse trancher qu'on en sorte une bonne fois pour toutes. Quand on met ce dossier à la queue de après la déchéance de nationalité qui a été conduit politiquement. La loi El Khomri, dont on se rend compte qu'elle n'a pas franchement été bien préparée en amont, et j'en passe et des meilleurs, ça fait quand même beaucoup d'éléments, sinon d'immobilier, en tout cas d'immobilisme, sinon de pagaille et de promesses non tenues, ce qui est peut-être pire que tout.
Au fond, s'il n'y avait pas de problème d'emploi et le risque de décevoir les gens sur l'emploi, ce serait peut-être réglé.
Est-ce
qu'on peut se battre aujourd'hui?
Décisions de justice, il y a eu quand même des procédures administratives qui avaient tout de même conclu au fait que l'aéroport pouvait être construit.
Oui, mais quelle est l'utilité de cet aéroport? C'est pas le débat des questions de justice. Aujourd'hui, il y a quand même la question sur la
justice,
le débat de l'utilité de l'aéroport.
Mélissa Bounois, vous voulez
dire? Oui, sur l'emploi, quand j'ai vu le chiffre de sondage, donc donnant 58% des gens favorables, après des années de débat, je me dis, mais comment c'est possible? Et en fait, c'est vrai que les gens ont été convaincus par l'emploi. Après, quand on regarde vraiment dans les chiffres, c'est des transferts d'emplois, ça va être des temps pleins sur une durée donnée, la durée de la construction de l'aéroport. Donc en fait, on sent que ce sondage fait plaisir à un bon moment, mais dans l'argument qui fait que les gens sont favorables, finalement, l'emploi, c'est des transferts d'emplois.
C'est 700 emplois équivalents pleins, disait la présidente de l'association qui est contre l'aéroport tout à l'heure.
Exactement. Allez, on va y revenir, mais il est 20h53 sur France Info. Les titres à Montpellier au Leguin.
Les syndicats très divisés sur la loi El Khomri. 5 d'entre eux font des contre-propositions et appellent à manifester le 12 mars prochain. De leur côté, la CGT et Force ouvrière notamment réclament le retrait pur et simple du texte. Ils organisent une mobilisation le 31 mars prochain. Un drone qui frôle un Airbus A320 alors qu'il allait atterrir, ça s'est passé le 19 février dernier près de l'aéroport de Roissy. Le copilote a dû faire une manœuvre d'urgence. L'incident est qualifié de grave par le BEA qui révèle l'affaire ce soir. La Grande-Bretagne débloque 22 millions d'euros pour aider la France à gérer la jungle de Calais. C'est ce qu'a annoncé David Cameron lors du sommet franco-britannique cet après-midi à Amiens. Le foot, l'US Granville va tenter l'exploit contre Marseille dans quelques minutes. 4 divisions séparent les deux clubs. En jeu, une place en demi-finale de la Coupe de France. Et puis le tennis, Gaël Monfils et Gilles Simon titularisés pour les deux premiers simples du premier tour de la Coupe Davis. Premier tour qui se joue à partir de demain en Guadeloupe face au Canada.
20h-21h, France Info, les informés. Jean-Mathieu Perlin.
Les informés de France Info, on parle donc de cette première enquête d'opinion concernant le futur référendum de Notre-Dame-des-Landes. Mais juste avant de revenir sur les questions environnementales, sur ce mot justement référendum, consultation populaire, on voit que ça revient beaucoup en ce moment. Ça revient à Notre-Dame-des-Landes, ça revient aussi dans les entreprises, ça même dans la loi El Khomri. Mais ça vous dit, est-ce que c'est un mot finalement aujourd'hui, s'il y a le fantasme des politiques derrière, de se dire tout va être réglé,
Alexandre? On dit on va donner la parole aux gens, peut-être comme ça ils seront satisfaits, ils auront l'impression en tout cas de voter. Mais enfin, l'histoire nous prouve quand même que c'est souvent pas la meilleure façon d'obtenir ce qu'on veut quand on est au pouvoir. Mais oui, ça, c'est disons que pour l'instant, vu le calendrier et cette élection qui arrive, ça peut sembler être comme une nouveauté, alors qu'en fait, en 2005, c'était pas forcément une bonne nouvelle.
Voilà, vous parlez de la Constitution européenne, en effet, donc il y a toujours ce traumatisme d'ailleurs dans la classe politique. Othmane Nasrou, est-ce que pour vous, de multiplier les consultations populaires, ou je parle même populaires, ou même en entreprise, comme on a pu voir aujourd'hui, qui est très critiqué par les syndicats, est-ce que c'est une chose intéressante, vous trouvez?
Oui, bien sûr, et l'outil en soi du référendum de demander directement l'avis aux gens, au suffrage, j'ai envie de dire direct, c'est toujours sain. D'ailleurs, on devrait en faire davantage, y compris sur des grands débats. Le problème pour Notre-Dame-des-Landes, c'est que là, pour le coup, on a eu tout un processus, les élus locaux se sont positionnés, parce qu'il faut aussi laisser chacun aussi dans son domaine de compétences. Ouais. Ceux qui l'ont porté peuvent être sanctionnés dans les urnes. Les décisions de justice sont allées au bout. Donc, et on sait que malheureusement, dans un référendum comme celui-là, c'est ceux qui sont contre, encore une fois, qui se mobilisent. Donc, alors qu'on voit qu'il y a une majorité silencieuse qui peut être plutôt pour les raisons d'emploi, très, très clairement, comme le dit Sophie Fay, je pense que dans l'urne du référendaire, ça risque d'être plutôt l'inverse. Et là, pour le coup, on aura à nouveau un vrai problème.
Yannick Halimi, sur cette pratique
voilà, moi, je me suis soumise à mon propre référendum parce que je me suis posé la question. Ouais. C'est vrai qu'en apparence, il n'y a rien de plus démocratique. Oui. Et puis, ça casse un peu les prises de décision verticales, autoritaires, centralisées, jacobines, en posant la question le plus possible aux gens. Après tout, référendum, c'est la démocratie. Oui, sûr, dans la démocratie, il y a le peuple. Cela dit, je suis revenue là-dessus et je pense que si vous m'ont fait un référendum pour me demander si je veux un référendum, j'y répondrai par non.
Non.
Parce que on s'en rend compte là, tous les dossiers qu'on ouvre, aussi locaux soient-ils, aussi sont extrêmement compliqués. Pour reprendre Notre-Dame-des-Landes, là, ça fait 50 ans que ça dure avec des procédures. Comment voulez-vous trancher par oui ou par non auprès de je ne sais pas combien de milliers, de dizaines, de centaines, de millions de personnes, une question que même une personne, François Hollande, le gouvernement, les députés, les conseillers régionaux, n'arrivent pas eux-mêmes à trancher. Je trouve que c'est extrêmement compliqué. Et un autre argument que m'a suggéré un professeur de droit, je ne l'aurais jamais eu, moi, c'est que les référendums, il faut le savoir, ce n'est évidemment pas une loi, ce n'est pas soumis donc au Conseil constitutionnel, et c'est donc une décision qui n'est soumise, sauf certains d'entre eux, mais qui n'est soumise à aucun contrôle, à aucun contre-pouvoir, aucun contrôle du Conseil constitutionnel. C'est le peuple qui a raison parce que c'est le peuple. Et moi, ça me fait peur, ce genre de choses, surtout au jour d'aujourd'hui.
Sophie Fay, on le voit. Et alors souvent, on dit que le référendum va être appliqué quand on est dans l'opposition. Hein. Souvent, on dit ça. On dit une fois que je serai au pouvoir, j'appliquerai des référendums, ce qui n'est jamais le cas. Il y a ce que disait Miss Abouna, ce traumatisme un petit peu aussi depuis 2005. On n'en a pas organisé au niveau national. On a peur aujourd'hui des référendums.
On a raison d'avoir peur, mais surtout, je trouve qu'on est dans un moment où la démocratie doit trouver des nouvelles manière de fonctionner. Et il y a quelque chose qu'on pratique assez peu en France et que je trouve dommage, c'est l'expérimentation. On se rend compte, sur la loi El Khomri, on nous plaque des propositions en nous disant, c'est ça, maintenant, faut décider tout de suite si vous êtes pour, contre, vous allez manifester ou pas. En fait, on comprend pas très bien ce qu'il y a dans le texte. Et dans le texte, il y a beaucoup de choses dont on ne sait pas si ça fonctionnerait ou pas. Pourquoi on ne va pas davantage vers de l'expérimentation en laissant vraiment, mais de la vraie expérimentation, c'est-à-dire en regardant vraiment ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne
et
pas.
Ça existe
en
déjà, ça, ça existe déjà.
Mais ça existe. On avait commencé par exemple pour le RSA,
ouais.
Et on n'est jamais allé au bout, c'est-à-dire que la loi a été prise avant qu'on voit vraiment le résultat des expérimentations qui avaient été menées. Mais on devrait aller au bout des expérimentations, donner au moins les moyens à chacun de juger ce qui est fait, plutôt que de demander des référendums qui, comme le disait Yannick, ressemblent à des piles ou faces, quoi.
Ouais, mais pourtant, on voit la consultation populaire, c'est toujours, on se dit, bah, le peuple
y aurait,
par le peuple.
Il y aurait peut-être une, qui est suggérée par pas mal de gens politiques ou une initiative intermédiaire, c'est ce qui se fait en ce moment sur des plateformes internet, par exemple, dans la République numérique, par exemple, vous savez, d'Axel Le Maire, c'est susciter des propositions de la part des citoyens, bon, alors qu'ils sont filtrés grâce aux gendarmes et aux modérateurs du site internet. Et après, toutes ces propositions remontent auprès des députés qui, eux-mêmes, avec leur rôle de représentation et leurs compétences, en tout cas présumées, font le choix, en discutent. Ça peut être aussi une bonne solution intermédiaire entre le jacobinisme et la démocratie à tout crin.
Alors, en espérant qu'il y ait le wifi à l'Assemblée nationale. Hein, voilà. En tout cas, pour qu'ils reçoivent, c'est toujours important. Allez, les informés de France Info, ça doit se terminer. Merci beaucoup, en tout cas, à Mélissa Bouna d'être passée ce soir, à retrouver sur slate.fr. Merci à Othmane Nasrou. Un petit coup d'œil à nos partenaires, Sophie Fay, donc la une de l'Obs.
Macron,
la fusée Macron et la une demain du Parisien.
Le business juteux des pickpockets.
Ah, très bien, c'est intéressant. Voilà, peut-être à prendre des idées, on ne sait pas.